Ami se leva gauchement et sortit du cabinet. La situation lui échappait. Seule, debout au milieu de la salle d'attente, elle hésita sur la conduite à tenir. Devait-elle prendre la fuite sans demander son reste? Le docteur l'avait-il fait sortir pour appeler Scotland Yard en toute tranquillité? Était-il en train de chuchoter dans le micro? L'espionne! Elle est là! Venez vite! Cédant à la panique, elle courut vers la porte, l'ouvrit sans faire de bruit et sortit sur le palier. Là, elle s'immobilisa, gagnée par une impression familière. Une réminiscence. Au lieu de s'engouffrer dans l'ascenseur, elle grimpa lentement les marches menant à l'étage supérieur. Une porte à double battant occupait le palier. Vissée à hauteur de regard, une plaque de cuivre ternie annonçait « Kingsley Bledsoe, artiste peintre ». « J'ai déjà vu cette plaque !» se dit-elle le souffle court. « Je suis déjà venue !» Pendant qu'Alicia restait seule avec Chapowski, je montais ici. Oui, c'était un rituel. Le médecin n'était qu'un alibi, un prétexte pour me rendre à Londres. Pendant qu'il hypnotisait la gosse, je grimpais un étage. Je sonnais à cette porte. Avec qui avais-je rendez-vous? Un amant, comme le prétendrait Sharon? Elle répéta doucement les syllabes gravées dans le cuivre. Kingsley Bledsoe. Elle leva la main vers le bouton de la sonnette, puis se ravisa. Celui qui habitait ici s'en est allé pour toujours, songea-t-elle sans savoir d'où lui venait cette certitude. Ses mains tremblaient, et elle avait envie de pleurer, comme si la disparition de cet inconnu était pour elle une catastrophe majeure. Lady Ashton, fit la voix du médecin à l'étage inférieur. « Lady Ashton ?» Ami sursauta. Tournant la tête, elle aperçut Chapowski sur le palier du cinquième qui l'observait d'un air étrange. « Voulez-vous me suivre ? » dit-il avec une insistance qui n'admettait pas le refus. « J'aimerais que nous fassions le point. » Incapable de lui résister, Ami le rejoignit. Elle avait les yeux pleins de larmes. En fait, elle débordait d'une incompréhensible tristesse. Quand elle entra dans le cabinet, Sharon détourna la tête et se recroquevilla sur son siège. « Quelque chose ne va pas », se répéta Ami en s'asseyant. « Je me suis moi-même piégée. » Elle eut un regard pour la tête phrénologique posée sur le bureau. Aurait-elle la force de la soulever pour la jeter au visage du médecin avant qu'il ne prononce des paroles irrémédiables. « Vous avez beaucoup changé, Lady Ashton, » grogna Chapowski. Alicia a subi elle aussi une métamorphose radicale. Bref, tout le monde au château semble avoir décidé de se transformer. En ce qui concerne Alicia, je ne puis me prononcer. Il n'en va pas de même pour vous, Lady Ashton. Ou devrais-je dire Miss Hancock ? Lorraine Hancock, pour être tout à fait exact. Je ne comprends pas, bredouilla Ami. Moi non plus, soupira le médecin, mais sachez que vous n'êtes pas Lady Alexandra Ashton. Vous êtes Lorraine Hancock, la préceptrice de Sharon. C'est vous qui veniez chaque semaine ici, accompagnée d'Alicia. Voyons, réfléchissez un peu. Croyez-vous qu'une lady se serait déplacée pour chaperonner la fille de ses domestiques? D'ailleurs, je puis aisément prouver ce que j'avance. Du monceau de paperasse entassé sur son bureau, il extirpa un dossier d'où il tira plusieurs fiches agrémentées de photographies. Voici un cliché représentant Alexandra Ashton, dit-il. Je l'ai découpé dans une revue mondaine. Vous pouvez vérifier qu'elle ne vous ressemblait pas du tout. Elle avait 50 ans et était beaucoup plus petite. Cette photo représente Alicia, celle-ci Sharon, la jeune comtesse. Et vous voici, ma chère, Lorraine Hancock, 30 ans, préceptrice, ancien professeur de maintien à l'Institut Swinton et Sweet. On ne peut guère se tromper, n'est-ce pas ? Ami crut s'évanouir. Pendant une dizaine de secondes, le paysage du cabinet se mit à tourner à la vitesse d'un manège pris de folie. Puis, elle se ressaisit et se pencha sur les fiches d'identité. « Mes dossiers sont à jour, » commenta le médecin. « Nombre de mes patients appartiennent de près ou de loin à la gentry. Et je sais parfaitement que Lydia Ashton est morte, comme son époux, et peut-être sa fille, quoique ce dernier point demande à être vérifié. Voilà pourquoi j'ai tiqué hier quand vous m'avez appelé. Je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais je puis vous certifier que c'est vous, et vous seul qui, pendant un an, avez accompagné Alicia dans ce cabinet. Vous êtes Lorraine Hancock, la préceptrice de la jeune comtesse Sharon, une employée. Quant à cet enfant, il se tourna vers l'adolescente, je ne puis me prononcer sur son identité. Elle a grandi, son apparence physique s'est trouvée modifiée à la suite d'un fâcheux accident. Elle ne m'a rien dit de décisif qui me permette de trancher dans un sens ou dans l'autre. Alicia, Sharon, ni l'une ni l'autre, j'avoue mon impuissance. Amy repoussa son siège. Elle avait l'impression d'être prisonnière d'un corset de fer chauffé à blanc. Il fallait qu'elle sorte, qu'elle prenne la fuite. « Attendez !» lança Chapovski. « Ne partez pas. Je puis vous aider, à condition toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une tentative d'escroquerie destinée à mettre la main sur la fortune de la famille Ashton. Si vous n'êtes pas en train de jouer la comédie, il n'y a que deux explications envisageables. Soit vous souffrez de troubles de la personnalité, soit vous avez perdu la mémoire. » Amy se rua hors de la pièce, Sharon sur ses talons. Dédaignant l'ascenseur, aveuglée par les larmes, elle dégringola l'escalier à toute vitesse, au risque de se tordre la cheville. Quand elle fut dans la rue, elle se mit à marcher au hasard. Les battements de son cœur lui martelaient la tête comme autant de maillets d'acier. Elle finit par deviner qu'on courait derrière elle. Pour finir, une petite main se glissa dans la sienne, celle de l'adolescente. « Tu m'as menti !» halta Amy sans tourner la tête. « Tu m'as raconté que j'étais ta mère. Tu m'as culpabilisée alors que je n'étais qu'une employée, une fille chargée de t'apprendre à faire la révérence, à rire sans trop montrer tes dents, à ne pas fixer les messieurs au mauvais endroit. « Pardon !» murmura la gamine. J'ai eu tort, je le sais. C'était mal, mais je ne voulais plus être seule. J'ai imaginé ça pour t'attacher à moi. Je me suis dit que si je parvenais à te convaincre que j'étais ta fille, tu n'oserais pas m'abandonner une deuxième fois. Amy s'immobilisa, refoulant la fureur qui grondait en elle. Elle se tourna vers l'enfant. Et d'abord, lança-t-elle, qui es-tu ? L'adolescente leva vers elle un affreux petit visage dont le sel des larmes avivait les cicatrices. « Sharon, » chuchota-t-elle. « Je suis Sharon, c'est vrai. Tout ce que je t'ai raconté est vrai, à part le fait que tu n'es pas ma mère, bien sûr. Ma mère savait à peine que j'existais. Elle m'ignorait. Et il n'y a que toi qui t'intéressais à moi. C'est pour cette raison que j'étais en rivalité avec Alicia. » Nous tentions chacune d'être ta préférée, ton chouchou. Amy s'essuya les yeux. Elle avait recouvré son sang-froid. Déjà, elle bâtissait des hypothèses. « Répète-moi ce que tu viens de me dire, » fit-elle d'un ton sec. « Quand tu prétends que tout le reste était vrai, cela signifie-t-il que je dois croire à ta version de l'incendie ?»« Oui !» cria presque Sharon. « Ça s'est passé comme je te l'ai raconté. » Je t'ai trouvé en train de te battre avec mon père. Il voulait te tuer. Mais il ne te traitait pas de putain, non. Ça, je l'ai inventé. Il disait « Voleuse, voleuse !» Je n'ai pas compris pourquoi. J'ai mis le feu au tableau pour te sauver, pour détourner son attention, mais tu m'as abandonné. Comment cela ? S'étonna la jeune femme. Quand on a quitté ta chambre avec la valise, on a commencé à descendre le grand escalier. Mais une poutre enflammée est tombée sur nous séparant. Tu ne pouvais pas revenir en arrière, Alors tu m'as dit de remonter et de passer par la fenêtre du couloir, de sauter dans le vide, que tu me rattraperais en bas. Tu as continué à descendre, tu es sorti du château. J'ai fait comme tu disais, j'ai gagné le corridor de l'aile sud et j'ai ouvert une fenêtre. Mais c'était trop haut et j'ai eu peur de sauter dans le vide. Je te voyais en bas. Je criais, j'ai appelé au secours.
Alors ?
Oui. Alors tu en as eu assez. Tu m'as tourné le dos et tu es monté dans une voiture qui venait de s'arrêter en bas du perron. J'ai entendu la portière claquer et je t'ai vu partir. Et moi, je suis restée là-haut, à brûler. Sharon s'était caché le visage dans les paumes. Ses genoux plièrent et elle s'effondra sur le trottoir pour se recroqueviller comme un animal à l'agonie. Amy la souleva dans ses bras, la forçant à se redresser. Elle ne tenait pas à éveiller la curiosité des Bobbies. Elles étaient toutes deux trop troublées pour retourner au dortoir municipal. Aussi Amy décida-t-elle de louer une chambre dans un hôtel du quartier. Elle se fit monter des toasts, du thé, de la marmelade d'orange pour essayer de se réconforter. La chambre comportait deux lits. Elles s'assirent l'une en face de l'autre sans penser à ôter leur manteau. « Tu m'en veux ?» interrogea Sharon d'une voix étouffée. « Non, soupira Amy. Je comprends ta réaction. J'aurais sans doute fait la même chose à ta place. Mais ce médecin m'accueillait à froid. J'ai eu peur qu'il prévienne la police. Il nous regardait comme si nous étions deux intrigantes en train de monter une escroquerie. Et je n'arrive pas à saisir pourquoi j'étais abandonnée dans le château en flammes. Tu dis qu'une voiture s'arrêtait devant le perron ?
Oui, elle a surgi à toute allure. J'ai cru que c'était les secours, mais non. On venait juste te chercher. Toi, et seulement toi.
Amy versa le thé dans les tasses et tartina les toasts. Soit, songea-t-elle, on me connaissait sous le nom de Lorraine Hancock et j'exerçais le métier de préceptrice, mais tout cela n'est probablement qu'une couverture, une fausse identité qui m'a permis de m'infiltrer au château. Un autre point l'intriguait, la présence de ce peintre au-dessus du cabinet du médecin aliéniste. C'était une coïncidence étrange. Il était un peu trop question de peinture dans cette histoire. Au château d'abord, à Londres ensuite. À présent, c'est certain, conclut-elle. Je me servais d'Alicia comme d'un alibi pour rencontrer ce peintre. Qui était-il ? Mon amant ? Mon complice ? Voleuse ! Avait hurlé le comte en essayant de l'étrangler. C'est du moins ce que prétendait Sharon. Pas espionne ou sale nazie. Non, voleuse. Et si je m'étais trompée depuis le début ? Se demanda-t-elle en frissonnant. Si je n'étais pas une espionne allemande, mais une aventurière, une voleuse internationale. La tête lui tournait. Elle s'étendit sur le lit. Elle devait s'introduire dans l'atelier du peintre. Les réponses qu'elle cherchait se trouvaient là-bas. « Écoute, » murmura-t-elle en pressant la main de l'adolescente. « Je vais ressortir. Je dois vérifier quelque chose. Il se pourrait que je tienne une piste. Tu vas rester ici sagement. »«
Non !» hurla Sharon en se redressant. « Tu mens. Tu vas encore m'abandonner. Tu ne reviendras pas me chercher. » « Ce sera comme l'autre fois. »
Amy la tira contre elle pour la calmer. « Je ne peux pas t'emmener, souffla-t-elle. C'est dangereux. On me recherche. Je ne suis pas celle que tu crois. Si je ne suis pas la gentille Lorraine Hancock que tu as connue, il faut que je sache la vérité. Tu vas retourner chez le docteur ?»«
Non, à l'étage du dessus.
Il me semble que c'est là que je me rendais quand Alicia restait en tête-à-tête avec Chapowski. J'avais rendez-vous avec l'homme qui habitait là.
C'était ton amant ?
Je crois que c'est plus compliqué. Plus dangereux. Je vais aller y jeter un coup d'œil. Je ne connaîtrai pas la paix tant que je n'aurai pas tiré cette affaire au clair. Tu comprends ? Sharon finit par capituler et par promettre de rester dans la chambre. Au moment où elle s'éclipsait,
Amy jugea tout de même plus prudent de glisser quelques billets de banque dans le bagage de l'adolescente, au cas où. Elle rasa les murs, pressée de gagner l'immeuble avant le couvre-feu. Parvenue à destination, elle dédaigna l'ascenseur et grimpa jusqu'au 5e, en s'appliquant à ne pas faire grincer les marches lorsqu'elle passa devant le cabinet médical. Arrivée au 6e étage, elle prit le temps de se calmer. Puis s'empara des épingles qui maintenaient ses cheveux en place, les tordit pour confectionner un rossignol de fortune. Elle s'attaqua à la serrure. Après avoir tâtonné pendant 2 minutes, elle eut raison du mécanisme et la porte s'entrebâilla. La jeune femme se glissa entre les deux battants. La lumière du crépuscule pénétrait par la verrière, éclairant suffisamment l'atelier pour qu'elle n'ait pas besoin d'allumer l'électricité. Une odeur d'huile de lin et de térébenthine flottait dans l'air. Le plancher était constellé de taches de peinture. 3 chevalets vides se dressaient contre un mur. Il y avait beaucoup de toiles vierges entreposées dans un coin. Des dizaines de pinceaux, des palettes très sales, une bonne centaine de tubes aux formes torturées. La poussière recouvrait tout. Personne n'était venu là depuis longtemps. Soudain, comme si une force invisible la guidait, Amy se dirigea vers un placard, l'ouvrit et s'agenouilla pour en faire basculer le double fond. Derrière les vêtements suspendus s'ouvrait un espace caché, une sorte de réduit d'1 mètre carré. Elle s'y faufila à 4 pattes. Il y avait un émetteur-récepteur ainsi que des cartons à dessin. Sur le mur au-dessus du poste, on avait punaisé 2 photos. Sur la première, elle figurait bras dessus, avec un jeune homme aux cheveux clairs, très beau, vêtu d'un pull marin. Ils riaient tous les deux, et on devinait à la façon dont leurs doigts s'entrelaçaient qu'une intimité fiévreuse les unissait. Sur le second cliché, Amy et le jeune homme étaient en compagnie d'un autre personnage, un homme grand, plus âgé qu'eux, qui regardait vers l'objectif en souriant d'un air contraint, comme si l'idée d'être photographié lui était insupportable. Amy battit des paupières. Elle connaissait cet individu, c'était le docteur Chabowski. « Alors tu es revenu ?» fit soudain une voix derrière elle. « Je m'y attendais. « Je suis content de te voir, jolie rouquine, » ajouta-t-il en allemand. La jeune femme pivota sur elle-même pour faire face. Mais elle avait déjà identifié l'accent du médecin. Il se tenait au seuil de l'atelier, les mains dans les poches, un sourire narquois aux lèvres. Amy s'extirpa de sa cachette. « Tout à l'heure, quand tu t'es présenté avec cette gosse défigurée, » reprit l'aliéniste, « je me suis demandé si tu avais réellement perdu la mémoire ou si tu tentais de m'en convaincre par un formidable coup de bluff. J'ai pensé. Elle est maligne, la bougresse. Elle essaie de me la faire au culot. Elle vient d'elle-même se jeter dans mes pattes alors que je la traque depuis 1 an. Et puis, quand je t'ai vu devenir blême en apprenant que tu n'étais pas Lady Ashton, j'ai compris que tu es vraiment amnésique. » Amy se redressa. Elle savait désormais qui se cachait sous l'identité du docteur Chabowski. Elle avait devant elle le prince crapaud, celui qui avait tenté de la kidnapper au St. Jobs. « Qui êtes-vous en réalité ?» demanda-t-elle. « Je me nomme Siegfried Hieronymus Hortz, » répondit l'étrange personnage. « J'ai été ton maître, ton mentor pendant des années. Je t'ai servi de père. Je t'ai tout appris et tu as fini par me trahir. Vous êtes allemand ?
Oui, mais j'ai un faux passeport polonais. Normalement, si tout s'était déroulé comme je l'avais prévu, nous ne devrions plus être ici, ni toi ni moi, depuis longtemps.
C'était une formidable combinaison, mais tu as tout fait échouer.
Alors, bredouilla Amy, vous n'êtes pas un espion nazi ?
Hortz éclata d'un rire sourd, méprisant.
« Diable !» siffla-t-il en allemand. « Comment as-tu pu devenir aussi stupide ?
Nous ne nous sommes jamais mêlés de politique.
Tu n'as pas encore deviné? Nous sommes des voleurs, de grands voleurs, des artistes de la cambriole, des maîtres. »
Amy battit des paupières. Elle savait qu'elle était en danger, mais elle se sentait néanmoins soulagée d'un grand poids. L'homme qui lui barrait le passage la haïssait, elle le sentait. Il était dur, implacable.
« Alors c'est vrai, » répéta-t-il comme s'il s'adressait à lui-même. « Tu as perdu la mémoire. J'ai longtemps cru que tu jouais la comédie pour m'échapper, pour me convaincre de te laisser en paix. Tu avais trouvé refuge dans cet hôpital. J'ai essayé de t'en arracher et puis la bâtisse a pris feu et j'ai perdu ta trace.
Où te cachais-tu ?
Je suis retournée à Ashdown, lâcha la jeune femme. Quelque chose m'a guidée là-bas. Une pulsion, un reste de souvenir.
Hortz hocha la tête. Dans la lueur rougeâtre du crépuscule, ses rides semblaient des plaies béantes sur son visage.
« Je vois, » fit-il. « Mais ça ne t'a pas fourni toutes les clés, pas vrai ?»«
Comment as-tu retrouvé cette adresse ?»«
Par la gosse ? C'est Alicia ?»«
Elle est seulement amochée. »«
Je n'aurais jamais imaginé que tu viendrais de toi-même te jeter dans la gueule du loup. »« Quand j'ai reconnu ta voix au téléphone hier, j'ai été suffoquée. » »«
Et cette histoire de Lady Ashdown, quel délire ! »
Tu étais la dernière personne que j'imaginais en train de sonner à ma porte. J'ai cru un coup de bluff, sublime. Le culot à l'état pur. J'ai pensé, elle essaie de me rouler dans la farine. Moi, le vieux singe qui lui a tout appris. J'hésitais. Étais-tu devenue très forte ou complètement idiote? C'était si énorme. Tout à l'heure, j'ai hésité. Je ne savais plus si je devais te dire la vérité. J'ai pensé, laisse-la partir, ce sera sa punition. Elle ne saura jamais. Elle deviendra folle, elle l'a bien mérité. C'est pour cette raison que j'ai joué au docteur. Te condamner à l'ignorance, à l'errance. Oui, sur le coup, ça m'a semblé une bonne idée.
Je suis réellement amnésique, trancha Amy. Si vous voulez, vous pouvez toucher la cicatrice qui me traverse le crâne.
Je te crois, éluda l'homme en gris. Sinon, tu ne serais pas revenu.
Car je vais devoir te punir. Tu t'en doutes, non?
Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je crois deviner qu'il s'agissait d'un vol de tableau, c'est cela?
Oui, un vol magnifique, formidablement préparé. Un véritable coup de maître. Nous avions eu un commanditaire, un personnage important de la haute société londonienne. Un amateur jaloux qui désirait s'approprier la collection du comte Ashdown. Ce lord nous a mis le marché en main. Il était prêt à nous acheter à un bon prix les tableaux du comte, pourvu que le vol ne soit pas découvert avant longtemps. Et si possible, jamais. Il ne voulait pas de scandale, pas d'enquête. Il craignait d'être suspecté. Hortz marcha jusqu'à la verrière. Il savait qu'Amy était suspendue à ses lèvres. Elle ne chercherait pas à s'enfuir. Il la tenait en son pouvoir.